Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ils ont œuvré pour la paix au Congo, en Côte d'Ivoire, en Syrie ou en Israël et en Palestine, mais leur nom n'apparaît nulle part. Leur travail est celui de la patience, centimètre après centimètre, du dialogue à la virgule près, de l'écoute, de la persévérance, mais toujours dans l'ombre, au cœur du conflit. On les appelle les médiateurs, les facilitateurs ou encore les pacificateurs, et c'est d'eux que nous parlons aujourd'hui. D'un côté, on pourrait dire que les médiateurs essaient davantage de rétablir une communication rompue que de négocier un accord de paix. Il s'agit d'abord que deux parties reconnaissent, ne serait-ce que leur existence et leurs besoins mutuels. Parfois seulement de les réunir dans la même pièce, comme vous l'entendrez. Le négociateur, en revanche, pour dire les choses de manière un peu grossière, se concentrera sur la discussion d'un accord et sa signature. Il travaillera aux compromis, aux concessions et aux lignes rouges à ne pas dépasser. Jacques et Eric sont plutôt donc médiateurs, mais il a pu leur arriver aussi d'être facilitateurs ou même formateurs en médiation. Le premier, Jacques Salzer, est considéré comme l'un des papes de la médiation en France. Il a beaucoup travaillé avec les civils israéliens et palestiniens et il a créé des outils de médiation et de formation à la médiation réputés efficaces. Il habite Paris, dans le quartier de Montparnasse, et il nous reçoit dans son petit salon encombré de manuels, évidemment sur les conflits et les relations internationales. Le premier s'appelle Éric Blanchot, il est médiateur et expert en négociation. Ses missions sont centrées sur les crises au Mali et en Libye. Il intervient également depuis février 2013 au Tchad. Nous l'avons rencontré chez lui aussi. Il habite avec sa famille juste au-dessus de la gare du Nord, ce qui lui permet, dit-il, de se rendre rapidement à Orly ou Roissy pour les situations urgentes. Tout de suite donc, tous deux nous racontent trois missions, trois histoires, deux plus une, qui éclairent assez précisément leur façon de travailler, ainsi que les objectifs à la fois minuscules et gigantesques qu'ils se fixent. Ils sont racontés par Justine Brabant.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Eric, je travaille en tant que médiateur depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, sur différents sujets, on va dire en tant que médiateur, facilitateur, les termes peuvent différer, mais en gros, voilà, je suis rentré un peu dans le champ de la négociation et de la médiation au début des années 2000. Le gouvernement du Tchad nous saisit en nous disant, voilà, il y a une guerre à notre frontière du côté libyen, dans une petite ville qui s'appelle Oubari. Et deux communautés du désert, les Toubou, qui sont importants au Tchad, parce que c'est une partie de la population au nord du pays. Et puis les Touaregs de l'autre côté, dont un certain nombre sont libyens. Donc ces deux communautés du désert s'affrontent militairement dans une guerre. Cette guerre a commencé avec des petites escarmouches, des incidents, qui ont pris une ampleur très vite, très grande, et les chebabs, les jeunes de chaque côté, ont couru aux armes, et la ville est coupée en deux avec une ligne de front, des bâtiments, des snipers, des chars. Donc je suis saisi d'une demande qui vient du gouvernement du Tchad, qui me dit en gros, amenez-nous une bonne délégation Touareg, on ne connaît pas ces gens-là, il n'y en a pas au Tchad, une délégation avec qui on puisse traiter. Et donc on va faire une première réunion. Donc on est tous à Tunis parce que c'est le lieu logistiquement qui permettait de réunir tout le monde. Et on organise matin et soir des sessions séparées. Et donc on a deux hôtels, deux délégations. Ils ne se rencontrent pas. Et on comprend très bien, chacun a perdu un cousin, un frère. Le sang a coulé et chaque de part et d'autre... Il y aurait un caractère incongru et sûrement incompréhensible sur la ligne de front ou dans les deux communautés concernées, à voir tout à coup sur les réseaux sociaux des photos où ils poseraient ensemble. Ça serait quelque chose de choquant. Donc il y a un refus de se rencontrer, de voyager ensemble. Et donc je vais d'un hôtel à l'autre. Et ces navettes sont toujours un peu compliquées parce que pendant qu'on est avec un groupe... On sait que l'autre groupe est sujet à des pressions, des appels, des communications, des remises en cause. Et puis une nuit peut tout changer. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Tout à coup, un groupe va dire « Non, en fait, là, on était fatigués hier soir. On veut relire l'accord. Et on n'est plus d'accord, d'ailleurs. » Bon, donc c'est un travail constant. Et il est vraiment important qu'il n'y ait pas un mot à la fin qui, tout à coup, crée la discorde en disant « Non, c'est pas ça qu'on a convenu. » Donc je vais vraiment m'assurer tout le long du processus, de l'accord. Finalement, quand on arrive à un texte et que on se prépare à aller notamment le présenter ensemble, c'est-à-dire les deux délégations Toubou et Touareg, on en passe par ce moment critique qui est « Ok, aujourd'hui, vous vous rencontrez et il faut que vous soyez face à face dans une même salle. » Je demande une salle assez belle, d'ailleurs, dans un hôtel luxueux dans le centre de Tunis. Ce qui va être très compliqué, c'est que les délégations, et notamment une des délégations, commence à poser toute une série de préconditions sur l'idée qu'ils puissent se retrouver. Ok, peut-être on peut accepter quand même, mais on veut déjà être dans la salle quand les autres arrivent. Alors je réfléchis, je dis, non, il faut que vous rentriez ensemble. Ils disent, d'accord, mais nous, on rentre avant eux et puis ils suivent. Alors, je dis, ça va être compliqué. Alors je vais voir l'hôtel, je regarde et je vois qu'en fait, il y a un grand couloir. Et je dis, ok, on va faire comme sur un match, sur un stade de foot, où vous allez rentrer en colonne, en parallèle, deux par deux. Et puis vous allez vous installer, comme ça personne ne sera rentré avant l'autre. Est-ce que ça vous va? Alors, il y a des hésitations, et puis les gars disent, ok. Et puis on prévient, on ne pourra pas leur serrer la main, c'est hors de question, et même leur dire bonjour. On rentre, on s'assoit, tu lis le texte sur lequel on est arrivé à un premier accord, ce qui est très important. Et puis, une fois que tu l'as lu, chacun vient signer de son côté, et chacun repart. L'autre délégation me dit « Non, ça, c'est pas possible. Si on va vers la paix, si on signe un accord, il faut qu'on se parle et qu'on se serre la main. » Bon. Là non plus, on va pas complètement convenir du fait qu'ils vont serrer la main. Il y a beaucoup toujours d'aigreur. Encore une fois, on parle de guerre, on parle de parents qui sont morts. Et donc, de part et d'autre, il y en a bien sûr qui gardent... non seulement de l'amertume, mais aussi de la suspicion, et qui ne sont pas du tout rassurés sur la suite, et qui se disent « Ok, ici, on est d'accord, ici, on se serre la main, mais si demain, ça reprend sur la ligne de front, ce sera pire maintenant qu'on s'est serré la main. » Et donc, moi, je pars sur place avec l'hôtel, et mon équipe va chercher les deux groupes séparément. On a les petits taxis fourgonnettes qui arrivent et on a un premier moment où ils se retrouvent un peu par hasard, surtout pour les fumeurs, devant l'hôtel. Et donc chacun se tient sur son trottoir, chacun regarde l'autre un peu en chien de faïence. Ils se connaissent, ça fait quand même, ils savent à peu près qui est en face. Et moi, je cours dans la salle vérifier que tout est prêt, les stylos, les petits bonbons que ces hôtels nous mettent, et de s'assurer aussi que sur le chemin, il n'y a pas un couac, que les couloirs sont accessibles. Et je ressors avec l'équipe, et donc on les invite à nous suivre. Et ils ne rentrent pas ensemble, ils forment deux blocs dans l'hôtel. Et finalement, de manière presque religieuse, on organise deux files indiennes qui se suivent dans la salle de part et d'autre, se regardent pas, et rentrent dans la salle en même temps. On a ouvert les deux battants de la salle, ils rentrent très silencieusement et chacun va s'installer. Bien sûr, moi je suis tendu parce que on n'est jamais à l'abri de quelqu'un, et ça nous est arrivé parfois, qui tout à coup fasse la phrase qu'il faut pas, qui nous fasse complètement dérailler. Et donc la cérémonie est très brève, on lit un texte qui est leur premier accord, le texte est signé, et là une des délégations décide d'aller vers l'autre, physiquement, se lève, quitte ses sièges, pour franchir cet espace dans une salle qui est assez vaste, il faut le dire, ce qui n'est pas forcément toujours l'idéal, Et donc, physiquement, ils franchissent cet espace et en face, on les regarde de manière un peu de marbre et se présentent pour serrer la main de l'autre délégation. Là, moi, j'ai une vraie peur, évidemment, surtout chez les jeunes de l'autre délégation, c'est le refus de la main serrée et le refus de l'accolade. Et finalement, les mains se lèvent et les gens acceptent, peut-être sans chaleur, mais les mains se serrent. Alors, j'ai été amené, à la demande des Nations Unies, à intervenir en Côte d'Ivoire. À l'époque, on espère que les élections vont bien se passer. Et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui s'occupe de la réflexion pour une refondation d'une armée ivoirienne, me demande de venir organiser une retraite. Dans cette retraite, on va associer à la fois les comzones, c'est-à-dire les patrons de la rébellion, qui s'est en gros installé sur le nord de la Côte d'Ivoire. À l'époque, ils tiennent toujours le nord de la Côte d'Ivoire. Le pays est coupé en deux et on doit se retrouver à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Et on doit passer 3-5 jours à réfléchir à ce que serait la nouvelle armée ivoirienne. Alors, on a d'un côté les comzones qui répondent à l'appel. Et de l'autre côté, on a l'état-major de l'armée de Laurent Gbagbo, plutôt dégradé d'un rang supérieur. Et on voit tout l'état-major armé à la ceinture ou sous la veste. Donc Laurent Gbagbo était le président toujours à l'époque. On est avant les élections de 2010. Et donc, difficile, on met du temps. Cette rencontre est plusieurs fois décommandée, recommandée. Et finalement, on se retrouve tous à l'hôtel Ivoire, grand hôtel, à Yamoussoukro. Et là, je suis en charge d'animer, mettre à l'aise ce groupe. Et donc, on est à l'époque dans la salle, on est sur une très grande salle dans ce bel hôtel. On les amène à nouveau à travailler ensemble. Tout a l'air très détendu, avec une crispation forte. Un des cadres en costard-cravate, côté gouvernement, a son ordinateur de marque Apple qui commence à faire une espèce de bruit pas possible, un truc pas possible. Et là, un des comzones bondit de son siège, met sa main sur son revolver, montre le gars du doigt et dit « Tu nous espionnes ». Et là, il y a un vieux cacique, un type comme il nous en faut dans les réunions comme ça, qui dit « Mais tu vois, avec ton joujou, tu fais l'idiot et t'inquiètes tout le monde ». Il se moque un peu de lui gentiment, tout le monde rigole. Commandant de zone regarde le truc, fait bon, ok. Et puis il s'assoit. Mais c'est là, à ce moment-là, qu'on comprend que toute cette aimable discussion, chacun est bien tendu. Et j'avais trouvé fascinant à l'époque que plus on avançait, plus tous ces militaires, rebelles, ex-rebelles ou gouvernementaux loyaux, finalement, au fur et à mesure des jours, racontent les mêmes histoires, racontent les brimades, raconte le manque d'intérêt des politiques pour l'armée, et se découvre finalement, par-delà la guerre qu'ils viennent de faire et qu'ils font encore et qu'ils vont encore faire, un univers complètement partagé, commun. Et donc plus les journées passent, plus on se rend compte qu'ils sont proches. Ça passe des moments très difficiles où certains racontent des épisodes où ils ont été torturés dans les prisons. Et là encore, les rebelles découvrent que les gouvernementaux aussi ont vécu des épisodes de disgrâce, de torture, de blâme. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils partagent, là encore, beaucoup plus que de choses qu'ils ne laissaient pas. Et donc, au bout de 5 jours, on produit une série de pistes de propositions et chacun finit par accepter de faire le petit bout de chemin qui permet de penser à une nouvelle armée ivoirienne. Et je pense, j'ai la faiblesse de penser que ça a permis, quand la crise politique et sécuritaire est venue après les élections de 2010, ça a permis quand même de recréer un semblant de dialogue et d'éviter certains affrontements inutiles.
Je m'appelle Jacques. J'ai exercé depuis 1963 dans l'éducation nationale. J'ai enseigné la communication humaine interpersonnelle. Qu'est-ce qui fait que les gens se comprennent ou ne se comprennent pas ? Donc, j'ai été au charbon et j'ai fait 80 facilitations, médiations sur 30 ans. Et j'ai été amené à intervenir dans des situations internationales avec des civils palestiniens et israéliens. J'ai fait deux groupes. Le premier groupe, c'était à l'époque des pourparlers Arafat, Clinton, qui ont frôlé la paix. Et le deuxième groupe, c'était par contre pendant la période de l'intifada. Alors, ces rencontres ont été organisées par une fondation suisse. Et des personnes qui me connaissaient m'ont dit « Est-ce que tu pourrais intervenir dans ce groupe-là » où pendant 10 jours, des Palestiniens et des Israéliens vont venir en Suisse. Donc, le premier groupe était constitué de professeurs d'histoire de collège et lycée, en nombre égal, palestiniens et israéliens. Ils avaient, sur ces 10 jours, à travailler ensemble pour explorer, voir, s'il leur était possible d'imaginer un livre d'histoire qui soit le même en Palestine et en Israël. J'avais à peu près 12 et 12 personnes. Et je vous avoue que quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait le groupe des Palestiniens et les groupes des Israéliens qui n'étaient pas ensemble à discuter. Et moi, étant plutôt à l'époque avec des cheveux blonds, blanchissants, mais occidental de type, j'ai été tout droit vers les Palestiniens. Et c'était un choix, parce que je leur ai dit bonjour, etc. Et je leur ai dit assez vite que j'avais vécu 16 ans en Turquie, que j'avais l'expérience de ce pays, parce que je suis né à Istanbul, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, que je parlais même turc, etc. Parce que je voulais montrer que j'avais aussi une proximité par rapport à leur culture, peut-être, et au Moyen-Orient, et qu'ils ne me mettent pas à distance qui serait de l'autre côté. En fait, on est dans quelque chose de progressif. C'est la politique des petits pas et leur relation évolue, comme évolue dans n'importe quel groupe des gens qui ne se connaissent pas, quand vous êtes chez des amis par exemple, et qui petit à petit découvrent des choses, ah bon, et toi et moi, et puis à table, ça parle, et puis ça vit ensemble. Donc, les Suisses nous avaient amené la veille à visiter un lieu en Suisse. Et on était dans une espèce de camionnette. Et un Palestinien avait un tambourin, vous savez, qui s'appelle Darbouka. Et il tapait dessus, voilà, il y avait un rythme. Et j'ai eu une idée. Quand il avait fini, j'ai été vers les Palestiniens et je leur ai dit « Est-ce qu'il y a une danse palestinienne, que quand nous allons, avant de nous quitter, que vous pourriez enseigner, transmettre aux Israéliens ?» J'ai dit, oui, on peut, oh, c'est possible. J'ai été vers les Israéliens, et je leur ai demandé s'il y a un rythme, une chanson, quelque chose qui pourrait transmettre aux Palestiniens. À la fin de ces 2 jours, nous avons eu un temps pour se dire au revoir, et dans ce temps-là, les Israéliens ont dansé la danse palestinienne et les Palestiniens ont chanté la chanson israélienne. Et c'est vrai que ça me touche. Alors je vais vous raconter cette histoire que j'ai apprise de l'un d'entre eux, un Israélien, parce que dans le deuxième groupe, c'était d'autres gens, mais lui, il est revenu. Alors je lui ai dit comment ça s'est passé après, hein, j'étais pas là. Alors il m'a expliqué que le mieux qu'ils ont trouvé, les professeurs d'histoire sur le fond, c'était pas un livre commun en 10 jours, mais que chacun pourrait dire en fin d'année scolaire à ses élèves qu'il avait enseigné l'histoire comme ça, mais qu'il les informait que de l'autre côté de la frontière, dans l'autre pays, l'histoire était enseignée autrement. C'était le minimum qu'il s'était donné. Et ce même monsieur m'a raconté l'un de ses souvenirs, qu'en quittant l'autre groupe, il se retrouve sur un quai de gare en Suisse, où il y avait aussi quelques Palestiniens. Et il va vers l'un d'eux et il lui dit « Khaled, nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas ?» hein? Et Khaled, qui était l'un des profs palestiniens, lui dit « Oui, nous sommes amis. » Et l'Israélien, qui sait comment ça se passe dans son pays, ajoute « Mais si jamais un jour je me trouve dans ta ville avec l'uniforme militaire, parce que je suis aussi officier réserviste, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et le Palestinien lui a répondu « Si tu viens dans ma ville avec l'uniforme militaire contre moi, ben je te lancerai des pierres. » Je me dis, quand les gens se retrouvent à vivre ensemble pendant un temps, c'est plus les êtres humains qui se rencontrent que les étiquettes. Et les étiquettes nous font très mal. J'ai beaucoup appris avec ces deux rencontres. La deuxième, c'est disons 2-3 ans plus tard, à l'époque de l'intifada. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de commencer fort. J'ai proposé, après l'entrée en matière, le faire connaissance, les tours de table et autres, j'ai proposé que les Israéliens soient réunis d'un côté, les Palestiniens de l'autre, que sur des feuilles de papier, dans chaque groupe, ils notent tout ce qu'ils avaient entendu dire dans leur pays sur les gens qui sont de l'autre côté. Tous les adjectifs qualificatifs. Ils l'ont fait. Après, j'ai ramassé les papiers et j'ai simplement demandé à ce qu'on lise. Et ils ont lu. On lisait d'abord tout ce qui se disait dans un pays pour qu'il y ait cohérence et tout ce qui se disait dans l'autre. Et d'ailleurs, on voyait qu'il y avait certains mots, certains qualificatifs qui étaient les mêmes de chaque côté. Il y avait des qualificatifs positifs parfois. Par exemple, courageux, travailleur, il y avait quelques-uns. Mais 90% étaient tueurs, dans toute la série. Ils ne sont pas étonnés. Mais moi, je le vis comme une espèce de libération. Ah, les mauvaises choses sont dites. Après, on va pouvoir parler quoi, autrement. Moi, je me dis, ça fonctionne. Et à ce moment-là, on a fini les énumérations, il y a une femme israélienne qui ose dire à haute voix, « Moi, j'ai aussi entendu chez moi quelqu'un qui disait que les femmes palestiniennes aimaient moins leurs enfants que les femmes israéliennes. » Je suis resté de marbre, ou tout au moins, en me disant, « Oh là 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 !» Et aussitôt, dans mon travail, je questionne. Ah oui, qu'est-ce qui vous a pu faire dire ça? Mais je montre aussi aux Palestiniens que je suis aussi affecté, d'une certaine manière, par ça. Et je ne suis pas que le seul affecté, même les autres Israéliens se disent où elle va. Et elle dit, ben oui, les femmes palestiniennes envoient leurs enfants, par exemple, se faire sauter dans telle explosion, et c'est ça qui lui faisait dire qu'elle aimait moins leurs enfants. Il y a un silence. Je regarde les Palestiniens. J'ai vraiment eu peur, quoi, dans le rôle que j'avais. Et une Palestinienne dit, mais c'est l'honneur de la femme palestinienne qui, pour son pays, pour son groupe, accepte que son propre enfant aille défendre la cause. C'est un amour encore plus grand, hein, pour l'ensemble de ses congénères, etc., que d'accepter ça. Une femme israélienne se retourne vers le prof d'école palestinien et elle lui dit « Mais allez, toi, tu n'enverrais pas ton enfant se faire sauter comme ça ?» Il y a un silence. Il ne répond pas tout de suite. La femme israélienne lui dit « Mais allez, enfin !» Et il dit « Je ne sais pas. » J'ai été, d'une certaine manière, sauvé par une autre femme israélienne qui se retourne vers celle qui avait dit, et je me souviens un peu de son prénom, et qui lui dit « Mais toi, tu crois que quand tes enfants vont en territoire et qu'il y a les soldats israéliens qui se font descendre, etc., c'est pas la même chose, toi, quand tu envoies ton fils à l'armée ?» J'ai senti que les Palestiniens savaient qu'ils avaient été entendus et traduits par quelqu'un de l'autre bord. People call but I wait for my honey, hey, waiting here for you. Others used to stay in the tiny caves, now my people, now you. So won't you stay, we can figure it out, find our hope, maybe lose our doubt. You should know, whatever I do, when distance calls, I'll be singing for you, singing. My people, oh my people, nothing compares to the soul of my people. My people, oh my people, nothing compares to you. Good people like you, good people like you, good people like you. People like you, good people like you. I try to find my place out there to start with something new. I try to find my way out there to escape from all that I knew. I had to find a way to make peace out there to try to grow up alone. Find a way to make peace out there, but it never felt like home without my people. Oh, my people, nothing compares to the soul of my people. My people, oh, my people, nothing compares to you. Good people like you, good people like you, good people like you, good people like you, good people like you. Good people like you. Good people like you. Good people say I found a place I love. I found a place I love. Yeah, there's something about you.
C'était La Fabrique de la Paix avec trois histoires de médiation. Un reportage de Justine Brabant réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Aurélie Marseille. Et nous avons un nouveau stagiaire qui s'appelle Abdelrahim Chekroun. Qu'il soit le bienvenu.